Salut les princesses, Mariac et Sonic et Eric sont ravis de vous retrouver pour une émission dédiée presque intégralement au dieu football. Ou football, pour être plus précis. En effet, il aura sans doute échappé à peu d'entre vous que cette émission a lieu le jour même de l'ouverture de la plus grande compétition sportive internationale, surpassant en termes de mythologie jusqu'aux Jeux Olympiques. Alors bien sûr, les petits malins vont se demander comment le New Breakfast Club va-t-il faire pour concilier les impératifs pop avec la passion du ballon. Eh bien, si vous posez la question, vous tenez déjà la problématique. La culture football est-elle une culture pop ou une culture trash? Eh bien, nous tâcherons de résoudre cette problématique dans une petite poignée de minutes. Mais avant, une nouveauté dédiée à quelqu'un qui a chanté d'ailleurs les joies du ballon rond,
qui a
même écrit, non peut-être pas écrit,
n'allons pas jusque là,
mais au moins chanté l'hymne qui avait tant porté chance à nos beaux tricolores en 2002.
Depuis le temps qu'il accapare les ondes, j'avais fini par croire que ce gars était immortel comme un genre d'organe officiel, et qu'on était tous condamnés toute notre vie à l'écouter, un peu comme en Corée du Nord, sauf qu'aujourd'hui Johnny est mort. Le président, l'air solennel, décréta le deuil national, puis l'on fit donner les sirènes pour les défuntes cordes vocales. Une queue de grande longueur, digne de l'organe et du chanteur, s'étirait à travers les rues, la France entière s'était tue. Aujourd'hui ça ne va pas fort, car aujourd'hui Johnny est mort. Ça ne va pas fort aujourd'hui, c'est la faute à la morale, Johnny. Et devant la chapelle ardente, comme Johnny quand il chante, se pressait la foule amoureuse de la star enfin silencieuse. Mais bientôt il y eut des cris et soudain ce fut l'anarchie. Une robuste bousculade rendait hommage au dieu du stade. Le ton commençait à monter, mais faute de siège à casser, le public s'en prit à lui-même en vociférant « Que je t'aime !» Même morte la vivante idole soufflait l'esprit du rock'n'roll, et beaucoup rejoignirent Johnny pour un concert au paradis. Aujourd'hui ça ne va pas fort, car aujourd'hui Johnny est mort. Mais c'est un honneur d'être ici et d'être mort avec Johnny. Dans la foule, je t'ai remarqué, radeau perdu dans la marée, avec tes yeux un peu moqueurs, ballotté comme moi par erreur. Alors je me suis approché, je t'ai dit « Johnny, vous aimez ?» Tu m'as dit « J'en ai rien à faire » et tu as commencé à me plaire. J'avais un peu peur qu'on t'entende, qu'on nous insulte ou qu'on nous pende. Il n'y a que les mauvais français qui n'aiment pas qui vous savez. Je t'ai dit de parler moins fort et on est parti sans remords. Puis je t'ai offert un café et aujourd'hui je t'aime encore. Ce jour-là ça n'allait pas fort, ce jour-là Johnny était mort. Ça n'allait pas fort ce jour-ci, heureusement qu'on s'est repris. Ça n'allait pas fort ce jour-ci, c'était la faute à la mort à Johnny.
Je Alors il faut rassurer tout de suite les nombreux fans de l'idole et en premier chef notre technicien Thierry qui va bientôt aller le voir au Palais des Sports. Non, Johnny est encore vivant, c'était juste pour la chanson.
Mais peut-être qu'il va claquer au cours de cette tournée gigantesque qu'il se prépare là. Hein. Presque 120 dates je crois.
Oula.
Est-ce qu'il va avoir la santé parce que ces derniers temps
Oui, c'est que c'est plus une jeunesse.
Ouais, non, il lui-même a rappelé hein, sur un plateau de télé qu'il avait beaucoup d'amis morts.
Eh bien, il faut quand même redonner le nom du groupe. Donner tout simplement, parce qu'on l'avait pas fait. C'est un groupe qui s'appelle La Blanche, qui avait fait un premier disque qui n'était pas passé inaperçu, qui s'appelait Michel Rocard, ne serait-ce déjà que ce titre. Et ça, c'est en avant-première d'un disque.
Oui, là, c'est de l'ultra nouveauté.
Ah, c'est de l'ultra nouveauté, mais
c'est pas sur disque.
C'est le New Breakfast Club. Et c'est un disque. Oui, mais c'est en même temps des MP3 légaux.
Oui, absolument. Vous pouvez vous rendre sur leur site et télécharger tout ça.
En toute légalité.
Bien sûr.
Et c'est donc en avant-première d'un disque qui sortira l'automne qui s'appellera Disque d'or. Au moins, ils en auront eu un.
Voilà. Bien, quant à moi, je vais faire pour la reprise de la semaine d'une pierre deux coups, puisque c'est également une nouveauté d'artiste qui se spécialise depuis quelques années maintenant dans la reprise, puisque je vais vous parler du nouvel album du collectif français Nouvelle Vague.
C'est vrai.
Nouvelle Vague, il y a 2 ans de cela, je crois, avait sorti un premier album. Le principe, c'est de reprendre des titres new wave anglo-saxons et de les retraiter de manière la plus simple et dépouillée possible.
Bossa Nova. Ouais,
pour le premier album, c'était très bossa nova. Effectivement. Et donc le groupe Nouvelle Vague, c'est le petit jouet de deux garçons qui s'appellent Marc Collin qui traînait beaucoup avec la scène versaillaise au début de la Friend Touch, qui a fait quelques BO de films et écrit pour plein de gens, écrit ou travaille avec plein de gens intéressants comme Catherine ou Elena Noguera.
Et qui d'ailleurs est la fameuse Elena qui sort un disque
sous le nom de Dillinger Girl.
Oui.
Ouais. Et donc la deuxième moitié du groupe, c'est Olivier Libault. Olivier Libault, c'était le créateur des objets.
Ah, très bien.
Des objets avec Jérôme Rousseau qui depuis mène le projet Ignatus. Donc ces deux petits compères là ont rassemblé quelques chanteuses autour d'eux pour poser leur voix sur ces relectures new wave. Sur le premier album donc qui était sorti en juin 2004, il y avait des reprises des Clash. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait oui, Guns of Brixton était bien fichu. Il y avait le Too Drunk to Fuck des Dead Kennedys. Bon, il y avait plein de petites choses comme ça à la sauce bossa. Et Camille, la fameuse Camille.
Il y avait les Specials aussi.
Il y avait les Specials aussi.
Très belle reprise.
Camille avait participé, avait prêté sa voix et avait fait la tournée du groupe et avait chanté quasiment tous les titres en live. Et cette fois-ci, ils ont abandonné la cause bossa pour s'embarquer sur un son un peu plus Caraïbes. Et le disque qui sort la semaine prochaine, qui sort le 12 juin, sans Camille cette fois-ci, mais avec sinon toujours les trois autres chanteuses, les deux chanteuses Marina et Mélanie Pain, marche un petit peu moins bien. Le tracklisting est encore alléchant pourtant, parce qu'on retrouve.
Il n'y a plus l'effet de surprise.
Il n'y a plus l'effet de surprise d'une part, et puis surtout il y a une monotonie qui va assez vite s'installer. Pourtant cette fois-ci il y a des reprises des New Order, de Cramps, de Bauhaus, donc de Yazoo, des Buzzcocks, il y a le fait tout le visage qu'on vous a passé il y a pas très très longtemps à cette antenne. Et malgré ce tracklisting alléchant, l'album tient pas vraiment ses promesses. Toutefois, il s'ouvre sur peut-être la meilleure reprise du disque que je vous laisse écouter tout de suite. Il s'agit de Killing Moon des Echo and the Bunnymen. Cancel though I Alors, qu'en pense notre spécialiste des Cones of Unimen de cette reprise?
Eh ben, tu vois, je suis sans voix, je suis sous le choc, je trouve ça très très bien, ouais. Mais moi, tu sais que j'ai toujours une prédilection pour ces voix très ténues, très, très douces, très, très husky, comme disent les Anglais, très, très soyeuses. Non, je trouve ça très bien. Moi, j'ai envie d'entendre le reste, parce que
bien
je connais
bien sûr. Cela dit, si vous voulez pas prendre de risque pour acheter ce disque à l'aveugle, ou ne pas l'acheter et manquer quelque chose qui vous plairait éventuellement, sur le site de Nouvelle Vague, c'est www.nouvellevagueetvagueaupluriel.com, il y a 4 ou 5 titres en téléchargement libre aussi. C'est l'occasion de se faire une idée. Sur le précédent album de Nouvelle Vague, Mélanie Pain chantait Teenage Kicks.
Ah oui,
The Undertones, et This Is Not a Love Song de Peel. Ouais. Et voilà, c'est vrai que c'est amusant aussi de voir d'avoir cette voix douce quelque part entre Françoise Hardy et Claudine Longet un peu.
Oui, tout à fait. Alors que...
reprenant ce texte qui il me semble parle d'éjaculation précoce si mes souvenirs sont bons.
Oui oui, absolument. Et puis surtout c'est la voix mûrie par la cigarette de Ian McCullough qui est une voix le Sinatra de Liverpool qui n'a évidemment rien à voir avec Mélanie Pain. Non, c'est très très bien ce contraste, mais finalement la chanson s'y prête aussi parce que c'était aussi c'était une balade hein, au moment où
ouais. Enfin le projet, que ça soit le premier album ou le second, donc qui s'appelle Bande à part, permet de tirer ces leçons là c'est-à-dire que toutes les chansons reprises, on s'aperçoit qu'enfin elles se plient vraiment à l'exercice, et que c'est sans doute parce que c'est des bonnes chansons dès le départ, en fait, tout simplement.
Exactement.
Que on peut pas obtenir le même résultat avec des chansons moins bonnes, et que une bonne chanson, quel que soit le genre, quel que soit l'arrangement, normalement elle survit, quoi.
Absolument, l'habillage fait pas tout, et lorsque l'habillage est la seule chose qui nous plaît dans une chanson, lorsqu'elles sont dépouillées, évidemment ça le fait plus, quoi, ça passe plus.
Voilà. Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cure. Extra, extra, read all about it. Extra. Alors théoriquement, ce jingle n'a plus de distance justifiée, puisqu'on vous avait dit la semaine dernière qu'on allait cesser la rubrique de l'article de la semaine. Effectivement, elle n'a pas vraiment lieu. C'est moi juste qui vais squatter ta rubrique du trésor caché pour juste faire une petite évocation que j'ai eue sur papier, à savoir que le soleil qui dure, la Coupe du Monde qui pointe le bout de son nez, plus de Français à Roland Garros depuis plusieurs jours, c'est vraiment le signe que l'été est en route. Hein.
Ouais.
C'est qu'on le reconnaît. Et un autre signe du tout début de l'été, c'est le Festival International du Film de La Rochelle. Et donc là, les pré-programmes ont été un peu distribués un petit peu partout. Et il y a deux, trois choses qui m'ont alléché. Principalement la venue pour une rétrospective, enfin un hommage plutôt, mais un hommage complet de Roman Polanski.
Un hommage complet, ça veut dire qu'on peut voir tous ces films.
Je crois qu'on passe tous ces films. C'est la rétrospective, sauf que la rétrospective, en général, le monsieur est décédé, ou la dame est décédée. En l'occurrence, là, on a John Huston, Harold Lloyd ou Maurice René. Donc, ils ne seront pas là, hein. Pas la peine de vous déplacer. Ils ne viendront pas.
Ils seront pas entre les deux tours.
En revanche, donc, Bulogier sera là pour une sélection de ces films. Là, c'est pas son intégralité, elle. Mais Roman Polanski, là, quand je vois le programme, c'est tous ces films qui sont prévus. Et, il y a deux, trois titres, genre Rosemary's Baby. À mon avis, sur grand écran, ça doit pas être vilain. Donc voilà, l'été est bien en route puisque le festival nous arrive le 30 juin.
Si vous souhaitez nous voir en vrai, ce sera peut-être une occasion.
Dans les files d'attente à ce moment-là. Oui. Bon bah je te passe le relais désormais, et on ne fera plus d'articles de la semaine.
Non, on ne fera plus d'articles, mais en même temps, mon trésor caché a quand même voir avec la presse, parce que je ne pourrais pas vous faire passer la petite merveille que je vais vous faire passer dans un instant si je n'avais pas lu un papier dithyrambique dans le Mojo.
Oui, non, mais de toute façon,
si
on ne vous parle plus de journaux à l'antenne, on continuera à en lire et on continuera à s'abreuver de leur science.
Alors mon grand, si je te dis Becky Severson, Ginny Reilly, Shira Small, Jenny Pearl, Marie Perrin, est-ce que ça te dit quelque chose?
C'est pas la finale du double.
Non,
ça me vient pas.
On n'est pas Roland Garros, il faut passer de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est pas Flushing Meadows non plus. Il s'agit de jeunes femmes, de jeunes folk singers américaines, qui ont enregistré dans leur cave, dans leur garage, entre Woodstock et les vrais débuts du Women's Lib aux États-Unis, c'est-à-dire 75-76. Tout ça a été enregistré entre 70 et 75. Ce sont des femmes, des jeunes femmes, des adolescentes parfois, qui n'ont jamais fait de carrière, et qu'on retrouve sur une anthologie d'un label de Chicago qui s'appelle Numéro Group. Le titre de cet album s'appelle Wayfaring Strangers, Ladies from the Canyon. Donc on voit la référence à Joni Mitchell et c'est évident que...
Enfin, tu vois la référence, hein. Moi ça me disait rien là.
Oui, excuse-moi, parce que c'est un des albums de Joni Mitchell qui s'appelle Lady from the Canyon.
Joni Mitchell qui n'est pas le frère d'Eddie Mitchell. Hein.
Non. C'est une très grande figure de la scène folk indépendante... de la pop intelligente américaine pour simplifier du début des années 70, voilà. Et donc beaucoup de ces jeunes femmes tentent de capturer son esprit à Joni Mitchell, mais en fait elles font quelque chose presque de mieux, hein, de mon point de vue, d'unique, de très personnel. C'est alors évidemment, hein, beaucoup des albums qu'elles ont enregistrés étaient auto-financés avec des pochettes pâte à la main. Les disques étaient vendus à la fin des concerts ou dans des vides greniers. Mais je trouve que ça a beaucoup d'intérêt. Donc 14 artistes différentes, 14 morceaux différents. Alors je vous passe le morceau que j'ai préféré, d'une dénommée Jenny Pearl, dont on n'entendra peut-être plus jamais parler. Alors c'est à la limite de la justesse, mais je trouve ça d'une honnêteté, d'une sincérité et d'une émotion absolument confondante.
Encore que sur Nouvelle Vague.
Ouais, non, c'est très très étonnant. Là, il y a une économie dans l'arrangement. Et encore, là, il y a quand même un piano. Parfois, c'est simplement des filles qui s'accompagnent la guitare sèche. C'est vraiment très très étonnant.
Elle est jeune, hein, la voix est très très jeune.
Ouais, la voix est très très jeune. Hein. Ça fait aussi partie du charme. Hein. On imagine qu'elle a à peine l'âge légal. Et donc elle
pour
s'appelle.
Chanter.
Oui, elle s'appelle Jenny Pearl et l'album s'appelle. L'album, veuillez m'excuser. Le titre s'appelle Maybe in Another Year. Et l'album, par contre, s'appelle Wayfaring Strangers, Ladies from the Canyon.
En import, visiblement.
Oui, en import. Faut chercher un petit peu pour le trouver, mais ça vaut vraiment le coup. Excusez-moi d'insister.
Bien, ben nous y voilà. La Coupe du Monde a démarré aujourd'hui. Bon, une petite entorse, on triche un petit peu en réalité. Nous avons enregistré cette émission hier, et donc on ignore complètement les premiers scores, enfin ou les premières minutes du second match. Toutefois, on est de tout cœur lancé dans cet événement parce que s'il y a une morale à tirer éventuellement de cette émission, c'est qu'on peut être pop et foot en France en tous les cas, puisque nous y parvenons.
Où on essaye d'y parvenir. Des glorieux anciens nous ont montré la voie. Hein. Les Inrecuptibles avaient fait, il y a déjà fort longtemps, une compilation qui mêlait le football et la musique indépendante anglaise.
Le magazine SoFoot l'a fait il n'y a pas si longtemps.
J'attendais que tu y viennes, bien sûr. Et le magazine SoFoot réussit à réconcilier les scènes toute la scène indé anglaise, américaine, avec les amoureux du ballon rond.
Bah, si on prend le prisme de la presse papier en France pour savoir si la France a une relation pop au football plutôt que trash et crassement populaire, mais le plus bas possible, SoFoot est le seul contre-exemple en réalité. C'est-à-dire qu'on a une
presse. C'est l'anti-France football.
Voilà, c'est qu'on a une presse très technique, très ras du gazon justement, et SoFoot a pris le pari de montrer que au moins pour les nouvelles générations, au moins pour les trentenaires en tous les cas, c'était peut-être pas le cas auparavant, mais pour les trentenaires, on peut à la fois être fan des Smiths et de Vicage de Rosso ou de tout autre finalement.
Oui, parce que parmi les footballeurs, il y a de poids de mesure, il y a de véritables héros pop, et tu viens d'en citer un, sans doute celui qu'on supportera avec le plus d'enthousiasme
si jamais on le voit sur le terrain, évidemment.
Oui, malgré son impopularité assez démente, hein, je comprends pas tout à fait les raisons. On veut bien sûr parler de Vicage de Rosso, et puis il y a des peuples qui s'y prêtent plus que d'autres. Faut reconnaître que les Hollandais ont toujours eu une aura assez extraordinaire, ne serait-ce que même Mickey 3D en France, qui avait intitulé un morceau Johnny Rep. Alors Johnny Rep ne joue plus depuis longtemps, mais il y a des équipes comme ça qui inspirent les groupes d'Europe. Alors au point de vue musique, c'est pas forcément des standards pop de haut niveau, de haute volée que nous fournit les hymnes des supporters ou les hymnes officiels des clubs.
Moi encore en France qu'ailleurs, hein.
Ouais.
Parce que même si j'avais le 45 tours d'Aller les Verts, c'est pas un modèle de production ni d'écriture, hein.
Non. Et même si on supporte l'ex-équipe de Robert Herbin, il faut reconnaître que c'est pas ce qu'on a fait de mieux dans ce domaine. Mais Basil Boli et Chris Waddle.
Et Chris Waddle, oui. Joel Batz aussi a fait quelque chose.
Oui, l'escargot, ouais. Oui. Ouais. Oh, c'est plutôt dans le feu coin du blaireau qu'on pourrait trouver ce genre de morceau.
La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que on peut être foot et pop si les joueurs ne sont pas pop eux-mêmes?
Ah, ça devient difficile.
Eh oui.
Ah oui. Là, t'as raison. C'est une vraie entrave.
Bah oui. Oui,
par
oui,
exemple,
oui.
Je vois pas. On parlait de Mickey 3D tout à l'heure. Je les vois pas composer un hymne à Didier Deschamps.
Non,
par
non,
exemple.
Non. C'est certain. Oui, c'est ouais. Certain. Mais SoFoot, on va vous en parler beaucoup certainement au cours de cette demi-heure. Je vais vous en lire tout de suite un extrait, parce que SoFoot, donc, c'est un magazine qui s'embarrasse rarement de résultats, de choses très techniques, et qui parle vraiment de l'esprit foot. Et il suffit de voir qui sont les gens qui sont interviewés dans le journal pour voir donc tout de suite le décalage. Ça, c'est Oasis, c'est Blur, c'est Luc, c'est pour les Français, c'est Mickey 3D, c'est Benjamin Biolay, c'est Catherine, c'est Bertrand Burgala. C'est pas du frontal, enfin c'est un petit peu biaisé. Et à l'occasion d'une récente interview en début d'année de Damon Albarn et de Gorillaz, il y a ce petit extrait qui est assez édifiant en ce qui concerne la popitude possible des footballeurs. Alors je vous lis l'extrait. Sinon, j'étais invité il y a quelques mois à passer des disques dans un club, et Claude Makélélé était au carré VIP. Je n'ai pas osé lui parler, mais il est venu me voir au platine pour me glisser à l'oreille. Connais-tu Tobé le chemise? Est-ce que tu peux le mettre pour moi? Et Dan Molenbar de répondre, je n'ai pas compris ce qu'il voulait, et en plus il a voulu me donner un pourboire. Donc la problématique est quasiment posée, quoi. C'est-à-dire que bon, j'ai rien contre Zebda, mais c'est pas les c'est pas les emblèmes de la pop. Et voilà, il y a Damon Albarn.
Parce qu'il faut rappeler quand même qu'en 1990, qui signait l'hymne de l'équipe de d'Angleterre, c'était ni plus ni moins que New Order.
Ouais,
quand
ouais,
même
ouais,
les,
ouais, non,
les,
mais
les parrains de.
Il y a un vrai décalage, au moins déjà avec l'Angleterre. On va s'interrompre une toute petite minute pour avoir une première illustration sonore de ce qu'on peut faire en France. Et à mon avis, c'était un morceau qui, même s'il a vieilli, même s'il est moins agréable aujourd'hui à mes oreilles, était assez emblématique de ce qu'on pouvait trouver il y a une petite dizaine d'années sur nos ondes concernant le football.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
La Mano Negra, donc, avec Santa Maradona, c'était sur leur dernier album studio, sur, ça y est, j'ai oublié le nom, Casa Babylon.
C'était pas moi qui pouvais t'aider sur ce coup-là.
Donc, bon, le morceau vaut ce qu'il vaut, mais c'est pas tout à fait une énergie pop, y a pas la préciosité de la pop, y a pas la finesse des arrangements, on est plutôt dans une, dans un truc plus bas du front, plus rock'n'roll en tous les cas, et c'est pas tout à fait le versant pop de la chose. Je sais pas ce que t'en penses.
Non, je suis tout à fait d'accord, parce que le versant pop, on va le découvrir avec le leader des Lightning Seed, Ian Broody, qui a enregistré ça avec deux comparses britanniques, Badiel et Skinner. Alors c'était pour la Coupe du Monde 90, un peu un bon souvenir pour les Français puisqu'ils ne participaient pas à la phase finale. Et c'est un morceau qui s'appelle Three Lions, donc les trois lions. Hein, les trois lions, bien sûr, parce que c'est ce qui est présent, c'est l'écusson qui est présent sur le maillot blanc et rouge de l'équipe d'Angleterre. Et alors, quelque chose qui est récurrent, mais c'était aussi présent sur ce morceau-là, c'est que une façon de différencier les chansons traitant du football du reste, c'est qu'on entend toujours
des ambiances, ouais.
Des ambiances et des commentaires de l'époque. Alors évidemment, à chaque fois, c'est changé, et c'est réactualisé.
C'est vrai que c'est un procédé quasiment imposé. Ouais. Le Johnny Rep 2004D se termine avec un commentaire d'époque. C'est vrai qu'ils se départissent pas souvent de cet effet-là. Ouais.
Alors le morceau des Lightning Seeds, enfin de Ian Broody, a été composé pour l'Euro 1996, mais il a servi aussi pour la Coupe du Monde 1998. Il a simplement été actualisé. Là, on va entendre la version de l'Euro 96 parce que c'était la première fois qu'une grande compétition de football revenait en Angleterre. Quand même bien dire que c'est le pays qui a inventé le football, ou sinon, parce que bon, c'est vrai qu'on peut trouver des traces de football au 9e siècle, au Japon, avant Jésus-Christ,
avec et puis la soule française, et voilà. Enfin, le débat est ouvert, hein.
Avec des panses de veau ou de daim remplies de sons, qu'on balance d'un côté à l'autre d'une forêt. Bon, ça, on peut en trouver depuis très très longtemps, mais disons, les règles officielles, elles ont été fixées par 11 clubs londoniens dans un pub en 1867.
Que ce soit dit.
Et 1967, c'était presque 100 ans avant la Coupe du Monde organisée en Angleterre, la seule qu'ils aient d'ailleurs gagnée, dans des conditions un petit peu litigieuses, on va pas revenir là-dessus. Et 30 ans après, en 1996, l'Angleterre recevait l'Euro, et voilà ce que composait Ian Broody, Three Lions. Football is coming home, come on England!
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming. The score, they've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt. Jewels remain still gleaming. 30 years of hurt. Bobby Belt in the ball, and nobody doubting. Three lines on the shirt, jewels remain still gleaming. 30 years of hurt, never stop.
Boire des bières sur ce morceau, mais il y a autre chose.
Ouais, non, il y a autre chose. Il y a une composante pop dont on parlait tout à l'heure. Alors, celui de cette année, j'aurais pu parler, ça aurait été évidemment plus pertinent peut-être encore, de parler de l'hymne officiel de la Fédération anglaise de football pour ce mondial de 2006 en Allemagne. Ça s'appelle World at Your Feet et c'est signé par Embrace, mais paradoxalement pour un morceau qui parle de football, c'est un peu mou du genou. Donc
ouais, et pas celui de Djibril Cissé.
Non, donc c'est un peu dommage, on n'en remue pas le couteau dans la plaie. Donc pas d'Embrace. Ouais,
ils l'ont recousu alors qu'il est, je crois quand même. Hein. Ouais, ont constaté les deux fractures et puis
Enfin, la Coupe du Monde, il la regardera sur un fauteuil. Hein.
Oui,
oui.
Certes, et
même pas du banc des remplaçants.
Alors, on pourrait effectivement opposer définitivement l'Angleterre à la France pour cette approche pop. En même temps, en Angleterre, ça peut être une chose complètement pop et une chose complètement
hooliganesque.
Ouais, hein, les deux extrêmes existent. Maintenant, assez symboliquement, le people surmédiatisé qui touche sa bille en foot et en musique en Angleterre, ce serait un monsieur comme Nick Hornby.
Oui. Et en France,
un monsieur comme Francis Lalanne. Ouais. Donc le fossé, il est franc, il est net. Hein. Ouais. Il est un peu caricatural aussi, je vous le cacherai pas. Il y a sans doute pas que Francis Lalanne qui s'y intéresse ou Francis Huster. Ouais. Mais malgré tout, ceux qui sont appelés en consultant pour un oui pour un non sur l'assise principalement pour l'instant, mais. Ouais. Bon.
C'est vrai qu'avec des supporters comme Francis Allen, on n'a pas besoin d'adversaire. Hein.
C'est vrai. Mais Nick Hornby, dont on vous a déjà parlé à multiples reprises pour son érudition et son goût très pop, dont il donnait l'illustration dans un roman tel High Fidelity, a écrit le High Fidelity du football anglais avec
Fever Pitch,
oui, ouais. Qui s'appelle Carton Jaune en France, qui a été adapté au cinéma une première fois en Angleterre avec. Parce qu'il y a eu une seconde version, mais qui était adaptée au baseball aux États-Unis. Ouais, ouais. Mais le premier, donc, traite bien du football et est sorti, est un film anglais. Et la BO, c'était les Laz,
ouais.
C'était Everything But the Girl. Enfin, c'était vraiment des choses complètement, voire carrément indé en fait, et pas des chants de stade. Alors, je pense pas que ce soit une pause en soi. Je pense que vraiment, de toute façon, un citoyen anglais est plus clairement en contact avec la pop music qu'un citoyen français.
Ne serait-ce que déjà par la radio.
Ne serait-ce que par la radio, évidemment, il suffit de comparer les charts français avec ceux de l'Angleterre. Mais pour le foot, c'est la même chose. Pour autant, est-ce que nous, on n'arrive pas un petit peu à redresser la barre, à avoir une franche pop qui est concernée par le foot? C'est sans doute vrai depuis 1998, où finalement, c'est plus du tout ringard ni beauf d'aimer le foot et d'afficher aimer le foot. Mais quand
ça en finit même d'ailleurs par en énerver certains.
Ah bah absolument, oui, on va retourner le gant au bout d'un moment, certainement.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement à la mode, il y a tellement de sociologues, d'ethnologues, de psychologues qui nous parlent de la passion
de romanciers qui s'y mettent,
que finalement, ça suscite l'effet inverse et il y a des livres qui parlent quand même de l'aspect aliénant, l'aspect mondialisateur du football, mais dans sa version capitaliste, libérale, violente,
romaine,
et sauvage. Ouais, ouais, dans sa version romaine.
Ouais, ouais. Et donc ce foot dont je vous parlais a tendu le micro et le magnéto à plein d'artistes français qui n'écrivent pas d'hymne ou n'en hurlent pas comme Tous Ensemble de notre ami Johnny dont nous parlions tout à l'heure, mais qui ont des avis ou en tous les cas un goût pour le foot, mais qui n'en font pas nécessairement état, et même des gens qui ont un goût assez modéré, préférant par exemple le basket, ce qui est le cas de Philippe Catherine, pour autant a été convoqué par SoFoot et les Inrocks en 2004 pour l'Euro, pour composer l'hymne non officiel de la compétition.
Oui, c'était un petit encart, c'était des deux titres.
C'était un deux titres, le second titre était un peu plus anecdotique, mais le premier
c'était très bien,
commença à montrer une nouvelle face de ce que pouvait être le goût pour le foot, avec beaucoup de dérision, beaucoup de pause, d'artificialité, mais tout ça a été rondement mené. Je vous propose d'écouter ça tout de suite.
T'es prête?
Ouais.
Ok, on y va. Thierry.
Cluverte.
Non. Patrick.
Oui.
Mais non. Louis.
Raoul.
Thierry Henry.
Ouais.
Patrick Kluivert.
Ouais.
Louis Figo.
Ouais.
Zinedine Zidane, ça c'est ok. T'es pas prête.
Mais si.
Mais non, t'es pas prête. T'es prête?
Oui.
Ok, Beckham.
Pavel.
Non. Nedved.
David.
Mais non. Thierry.
Pipo.
Non, Pipo Inzaghi. Zidane.
Zinedine.
Là, d'accord, ok, on répète. David Beckham.
Ouais.
Pavel Nedved.
Ouais.
Pipo Inzaghi.
Ouais.
Zinedine Zidane, ça, c'est toujours ok. T'es pas prête.
Mais si.
Mais non, t'es pas prête.
Oui, je te dis que oui.
T'es prête?
Ouais.
Ok. Raoul.
Le Portugal.
Non. Luis Figo.
L'Espagne.
Mais non. Thierry Henry.
L'Angleterre.
Mais non, ça c'est un piège. Zinedine Zidane.
La France.
Là, d'accord, ok. Raoul pour l'Espagne.
Ouais.
Figo pour le Portugal.
Ouais.
Thierry Henry pour la France. Prête.
Si, je suis prête.
Mais non, t'es pas prête.
Mais si.
T'es prête?
Oui.
Ok, bon, qui va gagner l'euro?
L'Italie.
Non. Qui va gagner l'euro?
L'Allemagne.
Non. Qui va gagner l'euro?
Le Portugal.
Non. Qui va gagner, c'est là?
La France.
Voilà. Ce sera pas l'Italie. Ce sera la France.
Non, le Portugal.
Ce sera la France sur un but de Zinedine.
Qui?
Sur un but de Zinedine.
C'est qui lui?
Non, mais tu l'as dit tout à l'heure.
Moi, je me souviens pas.
Non, mais tu l'as.
Bon, viens maintenant. Viens. Je m'arrête.
Non, mais...
Viens.
Sur un but de Zinedine.
Viens maintenant.
Moi, ça m'avait bien plu, ça, quand c'était sorti.
Ouais, bah, comme quoi, on peut concilier, le français, l'esprit pop et le football.
Bah ouais, ouais.
Et ce qui est rigolo, mon cher Maria Kerr, c'est qu'il y a maintenant un paquet d'années, un film français a été fait sur le football, qui n'a pas été d'ailleurs un gros succès au moment où il est sorti. Ce film, c'est Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Et aujourd'hui, il est considéré comme pratiquement le meilleur film qui a jamais été fait sur le football.
Le football,
ouais. Avec justement cette coloration pop, même donnée par le... Pourtant, Dieu sait que Pierre Bachelet ne peut pas être considéré comme un héros pop, mais dans ses musiques de film...
Davantage dans ses musiques de
voilà,
film,
exactement,
ouais.
Prend une autre,
celle d'Emmanuel était complètement pop puisque la suite a été reprise par Gainsbourg. Hein.
Très juste, très juste. Et là c'est assez fabuleux la façon dont ça a été fait puisque Bachelet était pas un, enfin vous rappelez sans doute hein, le.
On voit bien, ouais.
Le score sifflé par Bachelet en fait. Jean-Jacques Hano avait fait venir un siffleur professionnel.
Micheline Dax.
non, pas Micheline Dax, mais non,
ça y est, pas, l'équivalent, pas... son prédécesseur. En
oui, oui. Et puis de toute façon, je suis pas capable de me rappeler son nom. Et puis ça n'allait pas du tout. Ils avaient fait un thème très très arrangé. Vraiment, ça correspondait pas à ce film qui dépeint une France d'en bas, hein, une France arc-boutée autour de son club de football, une France dont le président du club dit je paye 11 imbéciles pour en calmer 800 autres, hein. grande
philosophie.
Ouais, grande philosophie de Jean Bouise, le patron de l'équipe de l'AS Trinquant dans Coup de tête.
Trinquant, but.
Et donc finalement, c'est Pierre Bachelet qui pourtant avait les lèvres gercées. Décidément, il y a un problème avec les lèvres en ce moment. On se rappelle de l'anecdote avec Miles Davis la semaine dernière. Et donc qui a réussi à siffler le thème, hein, qui durait le morceau durait quand même pratiquement 2 minutes.
Oui, puis là c'était pas de l'échantillonnage qu'on mettait en boucle. Hein.
Non,
il fallait encore y aller vraiment.
Il fallait siffler jusqu'au bout, et c'est ce qui a donné cette musique inoubliable pour un film qui ne l'est pas moins, avec des prestations extraordinaires, bien sûr celle de Patrick Devers dans le rôle du héros qu'on sort de prison uniquement pour pouvoir jouer, et puis aussi toute cette pléiade d'acteurs de second rôle français, enfin certains très très fameux, Mario David,
Paul Leperson, Michel Aumont,
et puis Robert Dalban, dont
Gérard
c'était
Hernandez
et Robert Dalban, c'était le dernier film.
Tout à fait.
Ouais. C'était le dernier film, avec comme conseiller sportif quelqu'un qui n'était pas encore la coqueluche des médias et le
consultant. Qui pourtant devait déjà avoir son bonnet.
Et qui déjà avait son bonnet, c'était Guy Roux, puisque le film avait été tourné
à Auxerre,
à l'intérieur du stade d'Auxerre. Alors le seul problème du film, qui ressort même à chaque nouvelle vision, c'est le fait que Patrick Devers était pas du tout un passionné de football, et ça avait beau être quelqu'un qui avait une vraie carrure de sportif, quelqu'un qui était très musclé, il était incapable de faire une passe correcte, et encore plus de faire une reprise. La fameuse scène où il doit faire une reprise dans le film, eh bien ils l'ont tourné 150 fois. Puis finalement, comme ils ne sont pas arrivés, ils lui ont fait marquer le but le plus important, ouais, qui permet la qualification Coupe de France de l'AS Trinquant, presque par hasard avec le talon. Donc je vous propose d'écouter le tout début du film. C'est pas vraiment la bande originale, même si on entend les fameux sifflements de Pierre Bachelet. C'est la première scène, le pré-générique du film. Alors attention, tendez l'oreille, le son est un peu sourd.
Du pénalty là, je vous téléphone pour la commande que je vous ai. Elle est partie!
Le frère, oh le frère.
Ouh là 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 là, les fans de coups de tête vont me tacler à la hauteur des oreilles. Je viens de faire une erreur monstrueuse.
Tu vas rejoindre Cissé.
Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas le pré-générique, bien sûr que non. Il s'agit de...
La presque fin.
Voilà, c'est le, après le triomphe de la S Trinquant, Perrin savoure son triomphe en défilant dans la ville. Et avant son grand projet d'humiliation de tous ceux qui l'ont mis en taule, quoi, qui l'ont mis en prison. Alors, j'aimerais profiter des quelques moments qui nous restent.
Sachant que je pense qu'on n'a pas du tout résolu notre problématique en réalité, hein, savoir si on pouvait être pop et foot. Nous, on l'est. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'aimer le foot sans kiffer spécialement? Il suffit d'un ou deux excités en 45 tours.
On laisse la question se résoudre avec le mondial. On verra comment le mondial va se passer.
Voilà. Alors tu voulais faire un petit jeu.
Bah justement un petit quiz.
Alors, rapidos. Hein,
oui,
rapide. Il y a un blind derrière.
Oui,
hein.
Il y a un blind. Je sais concernant la Coupe du Monde, j'ai 10 questions et on va voir ton score sur les 10 questions.
Ça
attention, c'est des
propre.
Questions faciles. Vous pouvez jouer chez
oui,
vous.
Oui, oui, oui.
Vous pouvez jouer chez vous.
Je suis toujours très mauvais ce genre d'exercice.
Le joueur qui a marqué le plus de buts en Coupe du Monde.
Bah Coppa.
Non, Gerd Müller.
Bon. Tu vois.
De toute façon, si ça avait été français, ça aurait été juste Fontaine.
En plus.
Ouais. Deuxième question. C'est plus facile. Le but en or qui élimine le Paraguay et qualifie la France pour la demi-finale de 98 est marqué par
Laurent Blanc.
Un point.
Ça le seul.
mais non, sois pas si modeste. Le Brésil a remporté sa première Coupe du Monde en
J'en sais rien.
Non.
J'en sais rien.
1958. C'est la première des trois de Pelé. Bon, peut-être plus facile. Le premier vainqueur de la Coupe du Monde.
J'en sais rien.
Bon, les trucs d'histoire, c'est pas ton truc.
Non.
Bon,
je t'ai dit, ça va être un beat ce jeu.
Le surnom de Maradona.
Bah la main de Dieu.
Ah t'es tout près. Non en fait t'es très très loin. El Pibe de Oro, le gosse en or. Non mais là t'avais vu.
Oui.
Bah
oui c'est vrai que j'ai vu le documentaire d'Arte qui était très bien mais tu vois ça m'a. Je retiens pas ces choses là.
Bon mais très très facile. La première. Pas force de
oui,
dire ça.
Oui.
La première équipe africaine à accéder à un quart de finale.
Cameroun.
Oui Cameroun. Deux. Ça aussi.
J'espère que vous amusez plus que moi en vous écoutant. Hein.
Oui, il souffre, il sue le pauvre. Le joueur français qui rate le tir au but qui élimine les Bleus lors de la demi-finale contre l'Allemagne en 1982 à Séville.
Didier Six.
Maxime Bossis.
Bon.
Didier Six était le premier.
C'était le premier.
Alors voilà, ça va être beaucoup plus facile. Le pays qui n'a jamais participé à une phase finale, mais là t'as une chance sur trois. J'en donne trois. Haïti, Corée du Nord, Guatemala.
Haïti,
Guatemala.
Voilà.
Et enfin le but le plus rapide jamais marqué.
C'est vrai que c'était un questionnaire très facile. Hein. Vous aurez remarqué. Hein.
Oh, je sens que tu vas te venger avec.
Oui, rapido.
Avec le blind test. Akan Sukur, c'était récent, c'était le dernier mondial, c'était contre la Corée du Sud.
Tu sais que le mondial, il y en a eu qu'un, et c'était en Espagne.
Oui.
Voilà, c'est fait.
La vengeance est un plat qui se mange chaud avec Maria Garcette et Akan Sukur pour la Turquie au bout de 11 secondes quand même.
Ouais, c'est peu.
Un record qui va être dur.
Ouais, c'est peu, c'est peu. Mais espérons qu'il aura lieu contre la Suisse à ce moment-là.
C'est fini. Thierry. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil.
Alors si vous entendez ça cette année, c'est que vous êtes sur la 6 hein.
Oui.
Bien, bon bah écoute, après ton petit jeu qui a été une vraie torture pour moi, je vais tâcher de te torturer à mon tour, ce qui est pas certain parce que finalement je suis plus gentil que toi au fond. Bien, bah écoute, bon, les fois dernières, t'as vraiment trouvé très rapidement l'exception faite peut-être de
Bizouman.
Bizouman,
j'avais pas été brillant.
Oui, mais c'est parce qu'en réalité, et je l'ignorais à ce moment-là, tu n'avais pas encore vu le film, et donc t'étais peut-être pas imprégné de cette folle BO, mais enfin, t'avais fini par trouver malgré tout.
Et depuis que je l'ai vu, j'en suis red dingue.
T'en es red dingue.
C'est vraiment quelque chose qu'on peut conseiller à beaucoup de nos amis.
www.bizouman.com. Ça nous, enfin, on n'a pas de capitaux dans le film.
On n'a pas d'action.
Mais c'est plutôt bien fichu. Ce qui est très bien fichu aussi, c'est ce blind d'aujourd'hui que je te laisse découvrir rapidement.
Mmh.
ça va chanter ?
Oui, ça va chanter.
Bon, là, je suis les oreilles dans le gazon.
Une petite aide, habituellement, ce n'est pas un duo. Habituellement, c'est...
La fille toute seule ou le gars tout seul ?
Le garçon.
Le gars tout seul.
Le gars tout seul.
J'aime plutôt bien, en plus, c'est ça qui me fait suer. Ça m'aime plutôt très bien.
Bon, autre petite aide, c'est
oui,
un français. Bon, c'est plus dur que d'habitude, mais je voulais en finir avec toutes ces humiliations que tu m'as collées
ah oui, ça, c'est...
semaine après semaine, jusqu'à présent, ce questionnaire de foot. Je suis bien content d'avoir choisi ça, finalement.
Oui, parce que c'est quelque chose que j'aurais dû trouver en plus, j'imagine.
Que tu pourrais trouver, ouais.
Ouais.
C'est une face B de 45 tours, c'est aussi sur un album de 1974.
Ah, c'est sûr.
Une face B de 45 tours, disque d'or.
Face B de 45 tours, super connu, genre
super
le sud
connu.
De Nino Ferrer.
Voilà, c'est la face B. C'est la face B du sud, qui s'appelle The Garden. Et c'était sur l'album Nino and Radia. Bon, c'est vrai que les albums des années 70 sont beaucoup moins... est connu et facilement, aisément reconnaissable
c'est
les années 60, évidemment.
Et c'est très très bien.
Mais c'est très très bien. Oui.
Ouais. Et ben bravo, parce qu'en plus, c'est une vraie découverte pour moi. Parce que je jure, je l'avais jamais écouté. Bon, même si c'est vrai, j'ai séché piteusement, je le reconnais.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine. On sera pas mal avancé dans cette Coupe du Monde, justement. Hein. On verra si elle est encore d'actualité pour nous autres.
On verra si les Français sont toujours dans le coup.
Et
oh,
puis,
j'espère quand même.
Et puis voilà, le thème de l'émission n'est pas encore complètement arrêté. J'ai deux, trois propositions à te faire une fois que les micros sont coupés.
D'accord, donc ce sera une surprise.
Et on vous retrouvera donc la semaine prochaine dans les mêmes dispositions.
Ok, passez une très bonne semaine au soleil.
Salut à tous.
Salut à tous.